Chaque année, des milliers de personnes fuient la guerre, la répression, les persécutions. Elles prennent la route de l'exil et affrontent de nouveaux périls dans l'espoir de trouver une terre d'asile. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour celles qui arrivent en Suisse ? Des vies en marge, un podcast du CSP Genève, 3 épisodes pour découvrir les réalités de l'asile en Suisse.
À propos de l'audition d'ICEM, c'est pas aussi facile. Parce que là, c'est comme si tu es un accusé de voir au tribunal.
Après avoir connu la menace du renvoi Dublin, Patrick a finalement pu entrer en procédure nationale pour sa demande d'asile avec l'aide d'une juriste du CSP Genève. La première étape passe par l'audition. Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode, droit d'asile et politique d'exclusion.
Moi, j'ai commencé à 10h et j'ai terminé vers 17h30. Il y avait des pauses, oui, il y avait des pauses, mais après ça, c'était intense.
Le but de cette audition, c'est de pouvoir prendre une décision. Donc en fait, mettre la complexité des vies, l'épaisseur des vies dans certaines boîtes légales. Et puis ça, c'est un processus qui est de toute façon violent.
L'audition exige de se raconter dans les moindres détails, dans une atmosphère d'interrogatoire. Le récit doit être structuré et cohérent malgré les traumatismes subis. Patrick a été torturé dans son pays. Avec l'audition, on l'oblige à revenir sur son passé violent.
Pour moi, il y avait un interprète. Il y avait aussi celui qui faisait l'audition, qui représentait l'OSEM. Il y avait aussi quelqu'un qui écrivait sur l'ordinateur. Il y avait aussi le juriste. On te pose beaucoup de questions. Moi, c'était, si je me souviens bien, ça venait des questions. Il y a déjà qu'on pose même plus de 200 questions. Je peux décrire un peu l'atmosphère là-bas. C'est vraiment très terrifiant. En fait, c'est comme si tu as tué quelqu'un que tu dois te défendre. La personne qui fait l'audition ou qui représente l'OSEM, lui, peut-être il a des formations dans ça. Alors, il va te bombarder des questions et des questions. C'est pas vraiment facile. C'est comme si tu es un criminel. Mais parce que c'est la procédure, on est obligé à passer par là. Parce que nous, on sait ce qu'on a fui. On sait qu'on veut un refuge quelque part. Alors on est obligé à confronter tout ça. Mais vraiment, c'est pas facile.
Dans la pratique des autorités, c'est une certaine culture de la suspicion envers les personnes qui demandent l'asile. Il y a toujours... on a quand même systématiquement l'impression que l'autorité va d'abord rechercher une bonne raison de dire non avant d'envisager la possibilité de dire oui à une demande d'asile.
Marie-Claire Kunz, juriste au service réfugiés du CSP, connaît ces procédures dans leurs moindres détails. Depuis plus de 20 ans, elle accompagne celles et ceux que le système met à l'épreuve.
Les critères, il y a évidemment des critères légaux qui sont assez carrés, où on a une définition légale qui dit que les réfugiés sont des personnes persécutées ou à risque de persécution dans leur pays d'origine pour différentes raisons, la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques. On a beaucoup de gens qui vont arriver et qui vont invoquer des motifs qui pourraient très bien rentrer dans ce cadre de définition légale. Mais le nerf de la guerre, c'est en fait la crédibilité des personnes. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent et qui vont raconter de manière lacunaire leurs problèmes ou qui vont raconter avec certaines imprécisions ou certaines... contradiction des fois dans les déclarations, c'est souvent ça qui va conduire au rejet de la demande d'asile et pas forcément l'histoire générale. C'est le détail de cette histoire, c'est comment les autorités évaluent ce récit de la personne qui va conduire à l'acceptation ou non du statut de réfugié. Ce qu'on constate, c'est que c'est très compliqué de faire admettre aux autorités que la personne dit bien la vérité. On a des contextes culturels très différents, des manières de raconter les épisodes de vie différentes d'une culture à l'autre. Et tout ça crée une interface qui est complètement brouillée, en fait, entre les autorités et les personnes, et qui souvent empêche les autorités de croire ces personnes.
Une aide juridique adaptée permet aux personnes requérantes d'aborder cette étape cruciale dans la procédure d'asile.
On va les rendre attentifs à la logique qu'il y a derrière un raisonnement juridique de la part des autorités, aux pièges dans lesquels ils ne doivent pas tomber s'ils sont interviewés, etc. Mais il n'y a pas de recette magique pour avoir l'asile, c'est un tout.
Le droit d'asile est devenu un droit d'exclusion. Au fil des années, l'arsenal législatif s'est de plus en plus durci et complexifié. Pour y faire face, la défense des personnes requérantes d'asile est indispensable.
Il y a forcément une dimension plus prospective, on va dire, dans le travail de juriste. C'est qu'on peut se contenter de ce que le droit dit et de ce que les autorités en disent. Et puis, dans certains cas, on se dit non, en fait, là, l'instrument juridique tel qu'il est ne répond pas complètement à la question. Donc, il faut amener des questions au tribunal pour qu'il tranche. Et des fois, il y a de quoi être découragé. Il y a des décisions qui révoltent. On perd aussi des cas et des cas pour lesquels on était parti au front en pensant gagner. Et c'est toujours difficile aussi à accepter. Des raisons de se décourager, il y en a plein. Cette notion de renvoi, c'est quelque chose qui pèse sur toute la situation de la personne, puisque juridiquement, c'est bien le statut qu'elle a. Quand une personne est déboutée, elle est censée être renvoyée. Et peu importe que les autorités exécutent véritablement le renvoi, pour la personne, c'est une épée de Damoclès qui est là en permanence. Et ça a des conséquences évidemment très lourdes sur sa vie, sur son psychisme.
La procédure, il faut qu'ils étudient vraiment comment, si quelqu'un n'a pas eu de réponse positive, d'abord essayer de faire un suivi après. Parce qu'il y a des gens qui terminent dans les hôpitaux psychiatriques, des gens même qui leur vie devient vraiment foutue. Si vous venez dans des foyers, vous les verrez. Des gens vraiment qui sont devenus comme fous à cause des réponses négatives.
À Genève, les milieux de l'asile sont sous le choc. Un jeune Afghan débouté s'est donné la mort la semaine dernière. Nous vous révélons ce soir, ses médecins avaient prévenu les autorités fédérales de ses intentions suicidaires.
On a des personnes qui ont reçu des décisions de renvoi, qui doivent quitter la Suisse vers leur pays d'origine, mais dont on n'arrive pas à exécuter les renvois pour toutes sortes de raisons. Du coup, on a toute une population qui est en Suisse sans statut, qui est déboutée, c'est des personnes qui sont déboutées de la procédure d'asile, mais qu'on n'arrive pas à renvoyer et qui restent dans cette zone intermédiaire d'exécution du renvoi, où il n'y a pas de légalité du séjour, mais en même temps, il n'y a pas de possibilité de renvoyer la personne. Et après un certain nombre d'années, la loi prévoit que le canton peut donner un permis B à ces personnes, une régularisation du séjour qui se concrétise par une autorisation de séjour de type B. Et là, on n'a pas, c'est pas réellement une procédure parce qu'en réalité, le canton a l'entièreté de l'initiative sur ces dossiers. C'est lui qui décide s'il veut donner une autorisation de séjour et la loi ne l'oblige pas à le faire ni n'oblige à rendre une décision. Ce qui fait qu'on a toute une partie de négociation aussi avec les autorités cantonales sur des dossiers de personnes déboutées qui sont là depuis un certain temps et dont la situation doit être réglée d'une manière ou d'une autre.
En Suisse, le droit d'asile fait l'objet d'un chantier permanent. Depuis son introduction en 1981, la loi sur l'asile a été révisée une douzaine de fois au moins.
Il y a plusieurs éléments qui ont été renforcés, notamment des éléments liés au statut de l'admission provisoire en Suisse, qui est un des permis qu'on peut obtenir au terme d'une procédure d'asile. Et c'est vrai que quand j'ai commencé dans ce domaine, bah, ces personnes, elles avaient vraiment très peu de droits, que ce soit en termes d'accès au travail ou d'accès à la formation, d'accès à des mesures d'intégration, en termes de regroupement familial. Toutes ces personnes avaient des droits vraiment très restreints, alors même qu'on constatait dans les statistiques que ces admissions provisoires n'étaient pas provisoires du tout et qu'elles duraient sur le long terme.
L'admission provisoire, ou permis F, c'est le statut accordé aux personnes qui ont besoin d'une protection humanitaire.
Petit à petit, le législateur a quand même pris la mesure de cet ancrage en fait, des populations titulaires d'un permis F et a renforcé les droits de ces personnes. Un autre aspect qui a été renforcé par la loi, c'est celui de la protection juridique, qui jusqu'à récemment n'existait pas, c'est-à-dire que à part trouver des avocats qui travaillaient gratuitement pour défendre les gens, les requérants d'asile, qui, je le rappelle une nouvelle fois, ne lisent pas le français, ne parlent pas le français, n'avaient personne pour les défendre. Donc c'est beaucoup des associations comme le CSP qui ont été en première ligne pour cette défense juridique. Après la détérioration, c'est sur plein d'autres aspects, c'est notamment sur le fait que les procédures vont trop vite, que les délais de recours ont été raccourcis. L'accès même à la procédure d'asile, en tant que telle, s'est durci. Et là-dedans, l'autorité fluctue dans l'application de la loi, avec des moments où il y a un peu plus d'ouverture, pour ensuite repasser à des périodes de grande fermeture. Et tout ça n'est pas forcément tributaire de la couleur politique qui dirige ce département de justice et police à Berne.
Paradoxalement, au Conseil des États, à Berne, il y a très peu d'intérêt pour l'asile. C'est-à-dire que quand les dossiers en commission qui concernent l'asile arrivent sur la table, souvent il y a peu de participation, peu de discussion, et puis c'est bouclé sans autre forme de procès.
Pendant près de 10 ans, Lisa Madson a pris part aux discussions sur l'asile au Parlement fédéral. Avec la députée genevoise Lena Strasser, elle met en évidence la dimension politique de l'asile qui souvent ne respecte ni le droit ni les situations des personnes qui sont prises dans les procédures.
C'est paradoxal parce qu'en même temps, dans les médias, dans le grand public et puis avec certains partis qui attisent certaines haines, on a l'impression que ça prend une place énorme. Donc on voit très bien qu'il y a une manipulation, une instrumentalisation de la question de l'asile et de la question du rapport à l'autre à des visées électorales, purement électorales. Et concrètement, en fait, personne ne s'intéresse à ce qui se passe exactement dans les centres fédéraux, personne ne s'intéresse à la surpopulation dans ces centres fédéraux, au manque d'accès aux soins, au manque de détection précoce des maladies mentales, notamment, et lié aussi au parcours migratoire. Donc, ça, c'est... voilà, il y a un peu le show médiatique et dans l'espace public, et puis il y a le désintérêt à l'intérieur du Parlement, en particulier, je pense là, au Conseil des États. Et ça montre que il faut vraiment prendre toujours avec beaucoup de pincettes tous les propos qui sont tenus sur cette question-là, parce que ils sont, je pense, souvent pas tellement empreints de sincérité, y compris pour ceux qui en font un thème de campagne, mais vraiment c'est une instrumentalisation politique électoraliste de base, je trouve.
Alors moi, je rejoins complètement Lisa sur cette thématique-là. Mais en même temps, c'est normal que ça prenne pas énormément de place dans les parlements, parce que c'est quoi, 1,5, 1,6% de la population suisse. Donc finalement, c'est normal que ça prenne pas beaucoup de place dans ces sphères-là, puisque c'est une toute petite part de notre population. Par contre, que ça prenne autant de place dans les médias et avec la désinformation telle qu'elle existe aujourd'hui, pour moi, c'est ça qui est le vrai problème.
Militer pour la défense de l'asile en Suisse, c'est faire partie d'une minorité engagée. C'est aussi accepter d'essuyer de nombreux revers sur le plan juridique comme sur le plan politique.
Maintenant, j'ai le permis B réfugié.
Avec l'aide du CSP, Patrick a obtenu le statut de réfugié en Suisse. Même si de tels succès sont isolés, il rappelle que l'engagement quotidien est nécessaire pour faire valoir les droits des requérants d'asile.
On arrive à régler des situations de manière conforme au droit, conforme à un sentiment de justice qu'on peut avoir. Et ça, c'est évidemment la plus belle récompense qu'on puisse obtenir quand on fait ce travail. Je pense qu'il y a quand même derrière ça un sentiment de foi envers l'humanité. L'humanité peut être désastreuse. Dans mon travail, on voit ce dont elle est capable. Et c'est vraiment, l'humanité peut être capable du pire, ça c'est certain. Mais elle peut aussi être capable du meilleur dans certaines configurations. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup.